Il y a quelque temps de cela, une vingtaine de mois exactement, alors qu'Elsa venait de pointer le bout de son nez, je cherchais un verset à inscrire sur son faire-part de naissance. Et au gré de ces recherches, jusque-là infructueuses, je finis par tomber sur le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence » et bonheur éternel auprès de toi. » Et j'ai trouvé ce verset bien approprié. En effet, quoi de mieux pour démarrer dans la vie que de parler du chemin de la vie? Et alors on a choisi ce verset, et puis personnellement, j'en suis resté là. Mais plus tard, je ne sais plus trop pourquoi, j'ai voulu me replonger dans ce psaume, et notamment dans la deuxième partie. Et en prenant le temps de bien le relire, ce texte m'a vraiment frappé. En fait, je l'ai trouvé magnifique. Je dirais même qu'il est devenu en quelque temps mon passage préféré, si tant est qu'il faille en choisir un. Et je me suis empressé d'apprendre par cœur cette deuxième partie pour toujours l'avoir à disposition. Et j'aime la méditer régulièrement. Alors pourquoi ce texte est-il si beau, à mes yeux en tout cas? Eh bien en fait, parce qu'il me semble qu'il nous présente parfaitement deux des plus belles promesses que contient la Bible, deux des plus belles promesses de la vie chrétienne et donc de la vie tout court. Et c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Et plus particulièrement, je voudrais, sur la base de ce cantique de David, que l'on puisse aller explorer ensemble quelles sont, ou quelles devraient être en tout cas, les vraies raison de notre joie. C'est le titre de cette prédication. Parce que ces promesses sont pour nous, j'en suis convaincu, les vraies raisons de nous réjouir au quotidien. Alors je vais parler de joie aujourd'hui. Et il est vrai que ce psaume de David est un psaume joyeux. Ils ne le sont pas tous, on le sait, loin s'en faut. Mais celui-ci l'est sans aucun doute. À travers ces quelques vers, David vient exprimer toute la joie qu'il a en lui. Et une joie qui repose sur des choses bien particulières. Mais peut-être, avant d'aller plus loin et de découvrir les raisons de cette joie de David, posons-nous d'abord une première question. En ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui nous procure du bonheur et de la joie au quotidien? Je vous laisse une seconde de réflexion, chacun pour soi. Il y a sans doute une multitude de réponses à apporter à cette question. Peut-être est-ce appartenir à une famille aimante ou encore tisser de profonds liens d'amitié. Tout ce qui touche à des relations fortes et épanouies procure généralement beaucoup de joie. Ou alors, peut-être est-ce mener à bien un travail, accomplir un projet, se sentir utile, constater le fruit de nos efforts. Ça aussi, ça compte, ça fait du bien. Ou même, plus simplement et particulièrement en ce temps d'été, peut-être est-ce juste de profiter d'un peu de repos, bien mérité au vu de la tâche accomplie. Oui, toutes ces choses nous rendent heureux, et devrait d'ailleurs, comme le dit ce cantique qu'on vient de chanter, être autant de sujets de reconnaissance envers Dieu. Mais le problème avec toutes ces choses-là, sans rien leur enlever bien sûr, mais le problème, c'est qu'elles peuvent malgré tout disparaître. L'échec ou la déception peuvent s'inviter tant au niveau de nos réalisations que de nos relations. Avec même, quoi qu'il arrive, au bout, en triste mais réel point de mire, la mort de tout cela, au propre ou au figuré. Tout n'est que du vent, dirait l'Ecclésiaste. Et alors, ça ne doit pas nous empêcher d'en être heureux, au contraire. Mais cela vient nous dire quand même que toutes ces choses ne peuvent pas être les raisons les plus profondes de notre joie, puisqu'elles sont amenées à disparaître. Il faut qu'il y ait plus que cela. Notre joie et notre espérance doivent s'enraciner et trouver leur source dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans ce psaume 16, David vient célébrer ses raisons plus profondes. David, on le sait, lui qui, tout au long de sa vie, a eu à la fois des temps de bonheur intense, mais aussi d'amères souffrances, David, cet homme-là, vient nous rappeler ce qui demeure encore et encore au-delà de toute autre joie ou de toute souffrance, ces réalités inébranlables qui ne disparaissent pas. Et je vous propose de détailler ces réalités, ces deux réalités qui me semblent apparaître dans ce texte. Oh, elles ne sont pas nouvelles, bien sûr. C'est le message constant de toutes les Écritures. Mais je me dis que parfois, et sans doute même souvent, on a besoin de se les rappeler, de les remettre en perspective. Parce que j'ai la sensation que nos quotidiens ont quand même vite tendance à les amoindrir ou tout simplement à nous les faire oublier. La première raison de notre joie, que l'on voit apparaître ici, c'est l'espérance de la résurrection. On relit les versets 9 à 10. « Mon cœur est dans la joie, dit David. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Quelle est la première chose qui est à même de nous donner une joie constante et profonde au-delà des circonstances? C'est l'espérance que Dieu nous ressuscitera et qu'il nous prendra avec lui pour vivre la vie éternelle à ses côtés. Chers amis, est-ce que vous vous réjouissez de cela jour après jour? Ou bien ces vérités sont-elles si lointaines qu'elles n'ont que peu d'impact dans vos quotidiens? C'est une possibilité, on le sent. Mais pour David, cette réalité avait un vrai impact dans le présent. Il exultait même d'allégresse, nous dit le texte, à cause de cela. Et pourtant, sachons-le, David était quand même bien moins privilégié que nous là-dessus. Parce que nous, grâce à la résurrection du Christ, nous savons que ces réalités et ces promesses sont tangibles. Nous savons qu'un jour, Jésus nous ressuscitera comme il a lui-même ressuscité, dans un corps glorieux, totalement séparé du péché. C'est une des grandes affirmations de la Nouvelle Alliance. Mais pour David, cette réalité était sans doute plus diffuse, car l'Ancien Testament, à part quelques passages ponctuels dans les psaumes, Ésaïe ou Daniel, l'Ancien Testament ne met que très peu en avant cette espérance de la résurrection. Et David lui-même dira d'ailleurs autre part, « Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ?» Et c'est une question sans vraie réponse, un point d'interrogation. Mais pourtant, dans notre texte, dépassant ce point d'interrogation, David a une formidable intuition, une formidable assurance même. Il a l'intuition et l'assurance que l'amour de Dieu à son égard ne pourra pas s'arrêter à la mort et se poursuivra donc inévitablement au-delà. Car Dieu est au-delà de la mort. Et ainsi, il l'espère, il le croit par la foi. Et même, il le proclame et s'en réjouit d'avance. Il place sa joie et son espérance au présent dans une promesse qui est pourtant pour lui encore un petit peu voilée. Mais nous, aujourd'hui, nous en savons plus. Et nous savons entre autres que ces paroles de David, prononcées sous l'inspiration de l'Esprit, dépassaient son propre entendement. Nous comprenons qu'en fait, il prophétisait sur Jésus, il entrevoyait la résurrection du Christ, prémisse de notre résurrection. Et l'apôtre Pierre, dans son grand discours de la Pentecôte, se servira de ce texte pour proclamer avec force que Jésus est bel et bien ressuscité. On le lit ensemble. « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, » dit Pierre. « Vous le savez tous, Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Ainsi, poursuit Pierre, il a entrevu par avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, poursuit. Mais en réalité, le Christ est revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. C'est une certitude écrite noir sur blanc. Une promesse, une assurance qui vient tout changer. D'ailleurs, dans ce même passage, Paul nous prévient que s'il n'y avait pas la résurrection, eh bien nous serions les plus malheureux des hommes, sans joie profonde en tout cas. Mais aussitôt après, il affirme qu'elle est là et donc que nous sommes les plus heureux des hommes. Alors je nous repose la question. L'espérance de la résurrection est-elle la vraie source durable et profonde de notre joie? Est-ce que nous exultons vraiment, comme David, au quotidien pour cela? Est-ce que nous gardons constamment devant les yeux la réalité de cette vie parfaite à venir auprès de Jésus, sans pleurs ni souffrances? Et est-ce à l'aune de cette vérité que nous vivons? Ou bien reléguons-nous ces promesses à un avenir lointain et flou, sans influence pour aujourd'hui? Et c'est certain, encore une fois, ce n'est pas facile de regarder cette réalité future bien présente au présent. On a vite tendance, en se disant qu'elle est pour après, à l'oublier. Mais je crois pourtant qu'il nous faut apprendre à la garder devant les yeux, car c'est à travers cette perspective que nous pourrons avoir une vraie dynamique, qui nous donnera un vrai moteur, une meilleure vision pour nos vies. Au cœur de nos joies passagères, au cœur de nos épreuves passagères, même de nos grandes joies ou de nos grandes épreuves. Voilà la réalité qui prédomine. Au bout du compte, Jésus ne me laissera pas dans la tombe, mais me ressuscitera pour être pour toujours avec lui. Et ça, ça dépasse tout le reste. Ça donne une toute autre perspective à notre vie. Une toute autre façon d'aborder, de considérer et de vivre la joie ou la souffrance sur cette terre. Et c'est sous cet angle d'ailleurs que je comprends aussi cet autre texte de Paul, difficile je trouve au premier abord, peut-être le connaissez-vous dans 1 Corinthiens 7, un texte qui affirme quelque chose de très fort sur la joie et la souffrance. Et je ne développe pas trop parce qu'il s'inscrit dans une autre thématique, mais je vous lis juste cet extrait qui rejoint ce qu'on dit. « Je vous assure, frère, dit Paul, le temps est limité, que désormais ceux qui pleurent vivent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. » Et il y a quelque chose de radical dans de tels propos, n'est-ce pas? Mais Paul nous dit ici, en fait, que par-dessus toute chose, la seule qui persiste encore et encore, c'est cette espérance de la vie éternelle. Alors oui, fixons dès aujourd'hui et pour nos quotidiens les yeux sur ces réalités célestes et sur ces promesses infinies que Dieu nous fait. Parce qu'alors, et seulement alors, comme le fait David, on pourra crier « L'Éternel est ma part ». Et la coupe où je bois, tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Et ça nous rend heureux. Voilà pour cette première raison. Et je passe de suite au deuxième point qui apparaît dans ce texte et qui vient magnifiquement compléter, je trouve, ce qu'on vient de dire. On continue notre lecture du psaume et on arrive donc à ce fameux verset 11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Après l'espérance de la résurrection, quelle est l'autre source solide et profonde de notre joie ? C'est cette conviction que si nous appartenons au Christ, nous marchons dès à présent et avec certitude sur le chemin de la vie, c'est-à-dire sur le vrai chemin, le seul qui ait vraiment un sens et vraiment un but. David se réjouit de deux choses, être un jour pour toujours avec Dieu et être dès maintenant avec Dieu au cœur de sa vie. À sa suite, nous sommes appelés à nous réjouir de deux choses. Savoir au-delà de tout que nous serons un jour aux côtés de Dieu. Et savoir que dès aujourd'hui, il nous prend la main et nous conduit avec amour sur le chemin de notre vie. Disons quelques mots là-dessus. Nous sommes en train de parler de chemin de vie. Mais qu'est-ce que c'est un chemin de vie ? Eh bien, c'est ce qui donne la direction générale à une vie, je dirais. Et alors, c'est certain, il y a beaucoup de chemins dans la vie. Et les hommes de tout temps les ont probablement déjà tous empruntés. Il y a ceux, par exemple, qui marchent peut-être vers l'argent, la sécurité ou le plaisir financier comme valeur première du quotidien. Il y a peut-être ceux encore qui marchent vers la recherche du pouvoir, petit ou grand. Et puis il y a aussi ceux qui veulent tout simplement marcher vers le bonheur, un chemin où l'objectif premier de la vie est d'être heureux, de profiter de sa vie. Et nous, quel chemin de vie suivons-nous ? Quel chemin suivez-vous ? Quelle est la direction générale de vos vies ? Qu'est-ce qui guide l'ensemble de vos actions ? Est-ce aussi la recherche du bonheur sur cette terre ? Et c'est une quête légitime, sans aucun doute. Mais pourtant, peut-être pas la quête première à rechercher si on en croit la Bible. Non, quand la Bible parle du chemin de la vie, il semble qu'elle parle quand même d'autre chose. D'un chemin peut-être même moins réjouissant, disons-le, au premier abord. Plus étroit, en tout cas. Plus difficile. Un chemin où on va jusqu'à parler de croix à porter. Et on pourrait d'ailleurs se demander s'il y a ici un sujet de joie. Et d'ailleurs, si je m'arrête un petit peu là-dessus, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je dois reconnaître que parfois, lorsque je mets en parallèle différents chemins de vie, lorsque je mets en particulier en parallèle ma vie et celle des non-croyants, je dois reconnaître en toute honnêteté que je ne trouve pas toujours que mon chemin de chrétien est le plus envieux, le plus avantageux ou le plus heureux. Je parle au-delà des épreuves de la vie qu'on partage tous. Et je m'explique avec quelques exemples. Parlons d'abord de la persécution et de ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des années de liberté ou encore la santé parce qu'ils ont juste choisi de continuer à croire en Jésus. Sans ambiguïté, ne plus croire leur aurait grandement facilité leur chemin de vie. Et à ce sujet, même si en France la persécution est évidemment moins explicite que par endroits, quand même, le climat actuel de suspicion, voire de mépris parfois qu'on peut rencontrer par rapport à notre foi, devrait nous montrer que nous ne sommes pas si épargnés par cette question, par une certaine opposition tout au moins. Donc oui, disons-le, devenir chrétien, c'est généralement, et bien au-delà de nos contemporains, dire adieu à une certaine forme de paix dans ce monde. Ou encore, deuxième exemple, parlons aussi des priorités de la vie. Personnellement, quand je vois ceux qui m'entourent, je les vois souvent chercher leurs priorités et celles de ceux qui leur sont proches. Alors, je ne veux pas caricaturer ou généraliser, bien sûr, hein, mais il me semble que c'est quand même un peu le climat général de notre monde. Mais le chrétien, lui, même s'il se doit de garder un juste équilibre, gage de durabilité, le chrétien en marche à la suite de Jésus, le chrétien soupirant après la justice, ne peut pas, lui, vivre uniquement pour son propre intérêt et celui des siens. Il ne peut pas oublier ceux qui subissent des injustices. Il ne peut pas oublier ceux qui se perdent loin de Dieu et qui deviennent un fardeau pesant sur son cœur. Ou encore, le chrétien ne peut pas non plus connaître la tranquillité de ceux qui se recroquevillent sur eux-mêmes, sur leur moi et sur celui de ceux qui leur ressemblent. Non, poussé par l'Écriture, il est prêt à perdre quelque chose par amour pour celui qu'il n'aurait pas naturellement aimé. En tout cas, c'est ce à quoi il est appelé. Alors oui, encore, devenir chrétien, c'est généralement, et bien au-delà de nos contemporains, dire adieu à une certaine forme de confort ou d'insouciance dans ce monde. Ou enfin, un dernier exemple concernant la question du péché, un domaine où la conscience du chrétien est aussi habituellement beaucoup plus sollicitée, je dirais, que celle des autres. Et j'avoue qu'il m'arrive parfois de contempler ceux qui décident de leurs propres règles morales avec une certaine « envie », entre guillemets, au sens où ils sont bien moins torturés que moi, en tout cas. Parce qu'il est beaucoup plus facile de se faire ses idéaux à son niveau que de chercher à obéir aux commandements radicaux du Christ, style serment sur la montagne. Et il est aussi plus facile de se laisser vivre que de mettre à mort le péché au quotidien dans tous nos comportements. Alors oui, une dernière fois, devenir chrétien, c'est généralement, et bien au-delà de nos contemporains, dire adieu à une certaine relativité d'esprit dans ce monde. Trois exemples, parmi d'autres peut-être, mais qui nous montrent que le chemin que Dieu nous propose n'est pas toujours le plus attrayant au premier regard. Il n'est pas en tout cas celui que nous prendrions naturellement. Le chemin de la vie que Dieu veut nous faire connaître mérite même réflexion avant de s'y engager. Et on se rappelle les paroles de Jésus et la parabole et sa parabole sur la construction de la tour inachevée. Oui, ce chemin de vie est difficile parce qu'il est quelque part un chemin de résistance. Résister au diable, résister au monde, résister au péché. Le chrétien est un résistant. Mais résister, on le sait, ça coûte, c'est dangereux, c'est prendre des risques, c'est perdre certaines choses. Et du coup, après avoir dit cela, vient inévitablement se poser la question, mais alors, ce chemin, en vaut-il vraiment la peine? Nous ne sommes pas épargnés par les souffrances que tous partagent, et en plus nous connaissons d'autres combats. Cela en vaut-il la peine? Et plus même, si je reviens au thème de ce matin, suivre ce chemin peut-il vraiment être pour nous une source profonde de joie? Parce que c'est quand même ce que proclame David. Le chemin de la vie avec Dieu est un profond chemin de joie et de bonheur, dit-il. Et pourtant, il s'y connaissait, lui, en souffrance, persécution ou question de conscience. Alors pourquoi? Pourquoi ce chemin en vaut-il vraiment la peine? Pas juste pour le plaisir de la difficulté ou de la résistance, on l'espère, mais pour une vraie bonne raison. Et une bonne raison qui va même réduire à néant, quelque part, toutes les difficultés rencontrées. Que vais-je découvrir dans cette route au-delà des difficultés, au cœur même de ces difficultés? Que vais-je découvrir? Ou plutôt, qui vais-je découvrir? Eh bien, dans ce chemin, David nous dit que nous allons rencontrer Dieu lui-même. Il nous dit que nous allons entrer dans une relation avec le Dieu Tout-Puissant, Créateur infini de l'univers, qui vient se révéler à nous qui marchons sur cette route. Et elle est là, la vraie réjouissance. Quel est ce chemin de la vie que Dieu nous fait connaître? On l'a lu, c'est une plénitude de joie en sa présence et un bonheur éternel auprès de lui. Ce qui rend incroyablement heureux, même au cœur de la persécution ou des combats de la foi, même au cœur des épreuves, c'est de pouvoir se trouver en présence de Dieu. C'est de pouvoir découvrir Dieu. C'est de pouvoir apprendre à connaître Dieu et à vivre avec lui, à côté de lui. Et ça, je crois qu'il nous faut toujours nous le rappeler. Le vrai bonheur dans cette vie, le vrai bonheur au-delà de tous les autres, c'est d'être en présence du Dieu infini, à travers le sacrifice du Christ qui nous ouvre cet accès à Dieu et à travers le Saint-Esprit qui vient faire vivre cette relation. C'est ce que nous sommes appelés à vivre encore et encore. Vivre cette relation avec Dieu, car elle et elle seule donne un sens à notre existence. Aussi, par la lecture de la Bible, par la prière et dans l'Église, cherchons toujours plus à approfondir notre cœur à cœur avec Dieu, puisqu'il est, lui, la source de notre joie. À travers la lecture de la Bible, apprenons à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. En approfondissant les textes bibliques, en les méditant, en persévérant dans leur compréhension, discernant un peu plus qui est Dieu, quelle est sa volonté et pourquoi elle est ainsi. Découvrons ses promesses et ses exigences, sa consolation et sa correction, ses bénédictions constantes et ses appels à une vie à son image. En méditant les paroles et la vie de Jésus, commençons à comprendre ce que c'est que de vivre vraiment, que d'aimer vraiment, que de pardonner vraiment, que de se donner vraiment. À travers la prière, tenons-nous auprès de Dieu. Confions-lui nos craintes et notre reconnaissance, nos doutes et nos joies. Avouons-lui en toute sincérité nos fautes et nos échecs. Réclamons son aide. Faisons grandir notre confiance en lui présentant nos besoins et en recevant ses réponses. Développons notre amour de la justice et de la paix et soyons à la fois spectateurs et acteurs de l'œuvre qu'il accomplit en nous. Dans l'Église, goûtons au privilège d'appartenir à la famille de Dieu. Vivons-y l'encouragement et l'émulation de marcher sur cette route ensemble. Partageons nos joies et nos fardeaux et construisons ensemble ce chemin de vie. Trouvons-y aussi le lieu pour expérimenter notre obéissance au Christ. Et comme le dit l'Écriture, pour expérimenter la recherche de la satisfaction de l'autre avant la mienne. Pour ensemble, d'un seul cœur et d'une même voix, célébrer la gloire de Dieu. Oui, Dieu nous laisse la Bible, la prière et l'Église comme moyen fort pour enrichir notre relation avec lui. Et donc, par voie de conséquence, pour enrichir notre joie, notre bonheur. Alors ne les négligeons pas. Ne négligeons pas ce que Dieu a estimé bon de nous donner. Et ensuite, en vivant cela encore et encore, jour après jour, viendra la question, mais serais-je encore prêt à échanger cela contre une autre vie, aussi plaisante soit-elle? Et notre réponse, comme celle de David, deviendra toujours plus une évidence. Certainement pas. Pour rien au monde, je ne quitterai ce chemin étroit et difficile, pour une voie certes plus large et plus aisée, mais tellement sans Dieu. Je veux être avec Dieu, car seulement là est la vie et le chemin de la vie. Alors que dire pour conclure, pour terminer sur ce psaume? Eh bien, peut-être encore que ce psaume est là au cœur de toutes nos joies quotidiennes ou de toutes nos souffrances quotidiennes, pour nous rappeler avec force quelles sont les promesses et les réalités qui dépassent tout et qui sont pour nous une vérité à saisir encore et encore. Certes, nos souffrances demeureront, nos joies demeureront. Il n'est nullement question de les refouler, de les ignorer ou de les refuser. Mais Dieu nous invite à regarder au-delà. Dieu nous invite à regarder vers une joie et une espérance encore plus grande. Alors, si nous avons choisi de nous attacher à ce Dieu, attachons-nous aussi à ces vérités qu'il nous offre. Et faisons comme David. Écoutons son conseil à lui, expert en joie et expert en souffrance. Que disait David ? Il disait « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, en toute occasion, en toute situation. » Gardons constamment les yeux fixés sur l'Éternel et sur sa volonté, pour ne pas nous tromper de joie, de chemin, de combat ou même de vie. Et, chemin faisant, saisissons-nous, là encore comme David, de cette belle promesse. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Puisque Dieu est près de nous, rien ne peut nous ébranler. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Amen.